Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Corentin Mansois et Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Dernier volet de notre série consacrée au tourisme à l'heure de la démesure. Lundi, nous parlions de l'attraction des espaces polaires. Mardi, nous analysions le phénomène des croisières. Hier, nous partions sur les plus hauts sommets du monde. Aujourd'hui, on se rend sur les terres de Mickey Mouse, Disneyland, au pays de l'émoi. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Un jour, le fondateur de notre société a dit « Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que le Disneyland soit un endroit où les adultes et les enfants puissent savourer ensemble les merveilles de la vie, de l'aventure et en sortir exaltés. »
C'est la quatrième fois que nous faisons un Magic Kingdom, un royaume enchanté. Donc on a profité de toutes les avances de technologie, tous les goûts de nos invités qui viennent de partout dans le monde pour mettre en place ici vraiment le maximum, le meilleur de tout ce que nous avons fait depuis 35 ans.
Lorsque je suis allé au Disneyland de Tokyo, j'ai posé la question au responsable japonais, aux hommes publics, et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre identité culturelle et d'avoir été colonisé par la culture américaine? Ils n'aiment pas du tout. Nous sommes restés des Japonais.
Voilà, on entendait à l'instant Michael Eisner, le président de Walt Disney Company, lors de l'inauguration en avril 92 d'Euro Disney, puis également Paul Cerami, président du conseil général de Seine-et-Marne en 1992, toujours, qui expliquait qu'il n'y avait rien à craindre de l'arrivée de Disney sur le plan culturel. Pourtant, depuis l'ouverture du premier Disneyland en Californie en 1952, les critiques sur ces parcs à thème ont été récurrentes. L'arrivée d'un parc Disney en 92 en terre française avait même provoqué une levée de boucliers face à la crainte d'un Tchernobyl culturel, une expression utilisée notamment par Ariane Mouchkine. En majeure partie européenne, ces critiques dressent le constat sans appel d'un modèle répondant aux attentes d'un consommateur états-unien lobotomisé dont la passivité serait le trait principal. C'est pourtant faire peu de cas de l'expérience du visiteur, de son plaisir comme de son activité, avec une fréquentation de près de 10 millions de personnes en 2018 et l'annonce le 23 mai dernier de la construction d'une montagne de 40 mètres et d'un nouveau lac gigantesque pour 2025. Le parc de Marne-la-Vallée montre pourtant que la recette des promesses de féerie et d'émotion fonctionne aussi au pays des Lumières. Alors, quel est le récit idéal prévu par les concepteurs? Comment est-il mis en place par l'architecture? Ce pari de l'émotion fonctionne-t-il? Et comment le visiteur se fait acteur de cet univers magique? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin. Thibaut Clément, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'Université Paris-Sorbonne et puis auteur de cet ouvrage qui était paru aux presses Sorbonne Nouvelle en 2017, « Plus vrai que nature, les parcs Disney ou l'usage de la fiction dans l'espace et le paysage ». On va en parler beaucoup du paysage justement de ces parcs Disney. Avec nous également ce matin, Johan Boitiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, chercheur au GRIPIC, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication de Sorbonne Université toujours, et vous réalisez, une thèse sur la communication des parcs à thème, et vous êtes beaucoup intéressé justement à l'expérience visiteur, il en sera question également dans cette émission. D'abord un petit peu d'actualité, regardons ce qui se passe du côté du parc de Marne-la-Vallée. Il y a d'immenses travaux qui ont commencé, avec l'aménagement de 3 nouveaux univers, Marvel, Star Wars et puis la Reine des Neiges. On a la construction d'un lac absolument énorme, 3 hectares de décor pour de nouvelles animations, une immense montagne, je le disais dans mon introduction, 40 mètres qui vont surplomber le royaume d'Arendelle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le royaume d'Arendelle, c'est le royaume de la Reine des Neiges, évidemment. Les travaux ont commencé il y a quelques semaines et la première zone doit sortir de terre et doit être accessible aux visiteurs en 2025. Que vous inspirent ces travaux l'un et l'autre et qu'est-ce qu'ils vous semblent révéler de la conception, au fond, que ce fait Disney de l'industrie du divertissement? Et puis on va évidemment détailler, mais sur l'actualité de Disney en ce moment, Thibaut Clément.
Bah, n'en point douter, ces travaux témoignent de ce que, au moins auprès de la direction de l'entreprise, le marché européen recèle encore de grandes possibilités d'expansion. Le visiteur européen.
C'est-à-dire que le marché se porte bien.
Le marché.
Non, parce que pendant très longtemps, on a parlé, on a expliqué qu'en réalité, ce parc n'était absolument pas rentable, que d'un point de vue économique, c'était une aberration. C'est fini ce temps-là ?
C'est pas tout à fait fini. Le parc, à vrai dire, n'a jamais vraiment déçu en termes de fréquentation, puisque la première année, les objectifs de la direction étaient de 15 millions d'entrées, quand au bout d'un an d'exercice, le parc en affichait une douzaine. Donc, à vrai dire, le parc avait rempli au moins son pari en termes de fréquentation. La grosse déception pour la direction vis-à-vis du public européen résidait dans les habitudes de consommation qui étaient manifestement très différentes au sein des parcs de ces publics qu'ils connaissaient déjà, le public américain et le public japonais, qui, une fois dans l'enceinte du parc, consomment joyeusement et sans limite, là où les Européens se montrent peut-être un petit peu plus raisonnables dans leurs habitudes.
Peut-être qu'on n'a pas le même rapport justement à ce type de divertissement, mais on y reviendra. Joanne Boitiot, que vous inspirent ces nouveaux aménagements? Alors on n'appelle plus ça Euro Disney, c'est Disneyland Paris maintenant.
Oui, alors je compléterai les propos de monsieur en disant que dans le contenu de ces nouveaux espaces thématisés, on part plutôt vers des espaces contenant une attraction majeure plutôt que diverses attractions. Et donc là, on est plutôt dans une recherche de qualité de l'immersion plutôt que dans la multiplication des attractions dites de foire.
Alors, encore un peu d'actualité, parce qu'il y en a beaucoup du côté de Disneyland Paris. Dans quelques jours, il y a un événement important, c'est celui de la parade LGBT+. Ça sera le 1er juin prochain. C'est la première fois, je crois, que Disneyland Paris organise un tel événement. On se représente souvent Disney comme le relais de valeurs, disons, plutôt conservatrices. Alors, comment comprendre tout cela ? Est-ce que le Disney est en train d'opérer un virage progressiste, ou est-ce que c'est seulement vous êtes intéressé, vous, à la communication ? Est-ce que c'est de la pure communication destinée à séduire précisément ces clients des communautés LGBT+, comment on peut interpréter les choses?
Alors,
allez, Joanne Boitiot.
Je le verrai moi plutôt de manière économique, afin de prolonger la visite des parcs par un public soit qui ne visite pas ou soit qui n'y va pas assez. J'associe ça totalement au marathon organisé par Disney qui s'appelle, je pense, la Magic Run, et puis le festival de jazz au parc Walt Disney Studios. Moi, j'associe tout ça à une manière de prolonger la visite. Et puis aussi en termes de communication, de diversifier les publics. Le festival de jazz est destiné à un public qui aime les arts, on va dire. La Magic Run aux sportifs cette Gay Pride à la Disney, donc à une communauté qui est friande d'ailleurs des parcs Disney.
Cette parade LGBT+, Thibaut Clément, c'est vrai que on avait le sentiment que Disney c'était plutôt, prenait plutôt des valeurs conservatrices. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est en train d'opérer un glissement idéologique, ou est-ce que...
Alors je pense que ça témoigne aussi de ce que l'engagement dans la cause LGBT+ n'est peut-être plus aussi radical qu'elle aurait pu le paraître autrefois. Si Disney juge aujourd'hui commercialement profitable de s'associer à un événement de cette nature, c'est certainement qu'elle ne craint pas un retour de bâton de la part peut-être des éléments les plus conservateurs de la société. C'est le signe que finalement cette cause a basculé du côté du mainstream. Après, j'aimerais ajouter que c'est peut-être le premier événement officiel qui se tient dans le parc, mais ça fait une trentaine d'années, à vrai dire, que les homosexuels investissent le parc à l'occasion de ce qu'ils appellent les Gay Days. Alors, il s'agissait certes d'événements plus officieux autrefois, avec
c'était
la sentiment
tacite. C'était pas organisé par les parcs.
C'était pas organisé par les parcs, mais il y avait quand même l'assentiment tacite de la direction des parcs à leur tenue, c'est-à-dire que jamais, les organisateurs n'ont rencontré de difficultés de la part des parcs pour y organiser ces événements qui ont gagné en ampleur au cours des années pour se dérouler sur plusieurs jours, là où originellement il s'agissait d'événements uniquement journaliers.
Est-ce que quand je dis que l'utopie disneyienne est plutôt conservatrice, je dis une bêtise, ou est-ce que quand même c'est assez vrai ? C'est ce qui semble apparaître à travers en tout cas la filmographie, mais...
Alors sur la filmographie, il faut quand même donner à Disney un certain crédit. Le fait est que les personnages parmi les plus populaires que déploient l'imagier et l'imaginaire disneyen, ça reste la princesse, dont on peut à raison, dire qu'elle perpétue un certain nombre de clichés sexistes. Au reste, Disney, tout de même, a beaucoup réfléchi à la question depuis au moins La Belle et la Bête et a tâché de faire ses princesses non plus des personnages simplement passifs, mais de véritables actrices de leur destin. Je pense que La Reine des Neiges aura, par exemple, bien montré la bonne intelligence de Disney et des évolutions du public en ce que c'est un film qui met en scène une sororité de sœurs, où il y a une complexité morale peut-être accrue, en ce qu'il n'y a pas d'antagoniste très clair. Il s'agit d'abord pour un des personnages de vaincre ses démons intérieurs.
Même si on a quand même du mal à afficher des messages pro-LGBT+, il y a visiblement un film qui va être qui va sortir très bientôt des studios qui s'appelle Jungle Cruise, dans lequel on a un personnage qui est ouvertement gay, mais c'est un coming out extrêmement discret. Il notifie simplement qu'il ne s'intéresse pas aux femmes, donc on voit que pour le moment encore, hein, montrer des personnages LGBT+, ça reste compliqué pour Disney. Joanne Boitiot, une chose à ajouter sur,
oui, sur ce
ces
point.
Valeurs conservatrices, progressistes qu'on retrouve à la fois dans la filmographie, mais aussi dans le parc lui-même.
Alors, il est sûr que le progressisme est davantage promu dans le capitalisme que dans les phénomènes sociaux, mais plutôt que du conservatisme, moi j'appellerais ça de l'aseptisation ou du positivisme disneyen, comme dirait George Ritzer, l'analyste américain des parcs Disney. On est plutôt dans une sélection positive et c'est vrai qu'on se trouve aux antipodes du parc temporaire qu'avait fait Banksy en Angleterre, hein, où là effectivement on voyait le carrosse de Cendrillon déverser son sang. Voilà, on est dans une sélection positive de la culture et l'histoire. Oui.
Allez, bah l'histoire justement, on va se plonger dedans. 1954, Walt Disney explique que la construction de ce parc Disney, du premier parc Disney, sera un endroit sans nul pareil dans le monde entre rêve et féerie. Écoutez, 1954, Walt Disney.
Welcome. I guess you all know this little fella here. It's an old partnership.
Bienvenue. Je me doute que vous avez tous remarqué notre ami ici présent. C'est un vieux partenariat. Mickey et moi avons commencé ensemble de nombreuses années en arrière. Un grand nombre de nos rêves sont devenus réalité. Nous voulons maintenant partager avec vous notre dernier et plus grand rêve. C'est cela, juste ici. Ce à quoi Disneyland ressemblera dans 10 mois. Nous avons commencé à construire Disneyland. Nous espérons que ce sera sans nul autre pareil sur Terre. Une fête foraine, un parc d'attractions, une exposition, une ville venue des mille et une nuits et une métropole du futur. En fait, un lieu d'espoir, de rêve et de fantaisie, tout en un.
Voilà, donc Walt Disney qui annonce ce royaume enchanté, Disneyland Park, le seul qui a été conçu, vu et inauguré par Walt Disney lui-même. Alors, d'abord, peut-être revenons sur la raison qui le pousse à faire ce parc, parce que après tout, c'est pas une évidence, hein. Il est d'abord dans l'animation. Alors, pourquoi se lance-t-il dans l'industrie du parc à thème? Et puis ensuite, on va regarder les formes urbaines utopiques qu'on a derrière, parce que c'est une des choses qui vous a beaucoup intéressé, vous, Thibaut Clément, c'est l'idée que dans ces parcs, on a des formes urbaines utopiques derrière lesquelles se trouvent des modèles sociaux assez largement fantasmés. On va essayer de les décrire. Mais d'abord, sur la motivation première de Walt Disney. Pourquoi est-ce qu'il fait des parcs?
Vous avez raison de souligner que c'est loin d'être évident. Hein. Walt Disney peine beaucoup à convaincre les banquiers ou même à convaincre son frère, qui est à la tête du côté plus managérial de l'entreprise, de se lancer dans l'aventure, si bien qu'il le fera seul et que pour en financer au moins le commencement, il vendra par exemple sa maison de vacances ou renoncera à ses assurances vie pour, récupérer les fonds à cette fin. Je pense qu'une des raisons qu'on peut trouver au lancement de ce projet, elles sont à la fois biographiques et puis elles résultent aussi des conditions plus générales que rencontrent les États-Unis dans la période d'après-guerre. Des raisons biographiques puisque Disney, depuis le milieu des années 30, est quand même en proie à de sévères épisodes dépressifs qui le poussent petit à petit à se désintéresser des activités du studio. Parmi les événements qui vont contribuer à ce relatif désintérêt, il y a le rejet critique de certains de ces films qui jusqu'ici avaient été assez bien accueillis. Il y avait une sortie triomphale de Blanche-Neige qui sera pourtant suivie par une réception, disons, très tiède, en tout cas, de Fantasia, puisque Disney ose, comment dirais-je, investir le terrain de la culture savante, ce qui, manifestement, lui vaut quelques réactions hostiles. Et puis, autre événement qui va justifier aussi ce, ce graduel désintérêt pour les activités du studio, la grève de 41, où ses animateurs, comment dirais-je, protestent contre des conditions de travail jugées exténuantes et surtout le peu de reconnaissance qui est fait de leur travail, puisque jusqu'à cette date, ils ne sont pas autorisés de voir leur nom apposé au générique. Seul le nom de Walt Disney y est permis. Donc, petit à petit, Disney se désintéresse de la production des films et, à l'inverse,
investit. Il lui faut un nouveau projet.
Il lui faut un nouveau projet.
Alors, vous nous décrivez justement à quoi ressemble ce nouveau projet. Essayez de nous expliquer comment est-ce qu'on l'imagine, comment est-ce qu'on le conçoit, comment est-ce qu'on organise l'espace et ce que ça nous dit, évidemment, de cette, de l'utopie urbanistique qu'il y a derrière.
Alors, ce nouveau projet, il trouve ses racines dans la propre maison de Walt Disney. À vrai dire, il témoigne d'une passion grandissante pour les modèles réduits et notamment les trains miniatures, donc dont il fait édifier une ligne autour de sa propriété de Hollywood. Et petit à petit, c'est sur ce modèle qu'il va, élaborer le plan de Disneyland avec la complicité d'un grand nombre de ses animateurs qu'il débauche à cette fin. Et donc, le plan que va finir par adopter le parc, c'est celui d'un espace concentrique, ceint par une ceinture immuable que constitue donc cette ligne de chemin de fer. Un espace concentrique qui va être subdivisé en un certain nombre de contrées qui se répartissent, tel un éventail, autour du château de Conte de Fées. Et si l'on veut, quelque part, chacun de ces landes, chacune de ces contrées, se veut en quelque sorte la figuration, la manifestation physique des grands genres qui domine alors le box-office, puisque chacun de ces landes réinvestit les codes associés au genre tantôt du film d'aventure et de flibuste, tantôt au film de science-fiction, au western, bien évidemment, sans oublier le genre du film d'animation merveilleux qui a contribué à asseoir la réputation de Disney.
Joanne Boitiot, sur l'élaboration de ce premier parc.
Alors, il est vrai que dans l'esprit de Walt Disney, ce projet a eu l'effet d'une boule de neige. Il était question de faire visiter les studios d'abord de Burbank. Et puis, Walt Disney étant quelqu'un de très ambitieux, c'est devenu effectivement tout un nouveau concept de parc de loisirs. Et j'ajouterai au propos de Thibaut Clément que les visites de certains espaces de loisirs européens par Walt Disney lui-même l'ont beaucoup inspiré. Dans
lesquels?
Alors, le Tivoli de Copenhague, les châteaux de la Loire, et puis Paris, parce qu'il avait bien sûr visité la France, visité, si je puis dire, lors de la Première Guerre mondiale. Il a été, moi j'ajoute aussi que ce projet, dans sa genèse, est né d'une opposition au modèle de la foire, qui représentait tout ce qu'il y avait de plus obscène, qui affichait des femmes monstres ou des hommes sirènes, enfin que sais-je. Donc c'est né aussi de cette opposition-là.
Et alors, sur le modèle urbanistique disneyien, est-ce qu'au fond il s'inspire de ce qu'on trouve dans la plupart à l'époque des villes états-uniennes, ou est-ce que précisément il s'en démarque et... Comment, Thibaut Clément ?
Alors, le fait est que Disneyland, je pense, ne revêt tout son sens que quand on le rapporte à la ville de Los Angeles. Il en est, en quelque sorte, le contrepoint. Là où Los Angeles n'est jamais qu'étalement urbain, affiche une architecture générique ou alors criarde qui se bat, à coups et à cris pour retenir l'attention de l'automobiliste, Disneyland, à l'inverse, est conçu comme une oasis pédestre où l'environnement est entièrement planifié de surcroît par des gens au goût finalement assez sûr, à savoir les animateurs de Disney, un environnement finalement harmonieux, propice à la rencontre et à des formes de socialité que le tout automobile de Los Angeles ne permettrait plus.
Alors, avançons un tout petit peu dans le temps. Il y a 16 ans plus tard, un nouveau parc qui va s'ouvrir, le Magic Kingdom. Alors, je ne sais pas si ce parc va finalement se démarquer du précédent, mais on va encore avancer. Vous reviendrez dessus si vous avez envie l'un et l'autre. Mais on va avancer à celui d'octobre 82, parce que celui-ci, qui s'installe du côté de la Floride, Epcot, est particulièrement intéressant. Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow. C'est un projet tout à fait différent, parce que lui, il vise précisément à appliquer cette architecture des précédents parcs à une ville véritable. C'est-à-dire qu'au départ, le projet de Disney, c'est pas de faire un parc, c'est de faire une nouvelle ville.
Tout à fait. En tout cas, c'est le projet qu'il affiche. Il diffuse en 1965, un an avant sa disparition, un film sur les ondes de Floride, où il expose les grands principes urbains qui sont censés, comment dirais-je, caractériser ce nouveau projet. Les recettes n'en sont pas tout à fait nouvelles. On peut y voir ses origines, par exemple, dans la cité-jardin de Ebenezer Howard, ce mode de croissance urbaine qui fait la place belle aux espaces verts, qui voit le jour déjà à la fin du 19e siècle, mais aussi à certains projets urbains de Victor Gruen, qui est, comment dirais-je, le pape du centre commercial aux États-Unis à l'époque. Il s'agit d'y enterrer la plupart des infrastructures de transport de façon à dégager le maximum de surface végétale et plantée au-dessus.
Il s'agit aussi d'y loger des gens, d'installer aussi des bureaux. Je crois qu'il y a un centre, alors c'est pas un centre industriel, mais c'est un plutôt de high-tech à l'époque, on peut dire ça comme ça.
Tout à fait.
Hein, c'est ça aussi. Sur ce projet absolument incroyable, Joanne Boitiau, parce qu'effectivement, là, il est très différent. Il ne s'agit plus de faire un parc, il s'agit de faire une ville et peut-être aussi de répondre aux défis urbanistiques de l'époque.
Tout à fait. Alors moi, je reviendrai sur la vieille recette. C'est vrai qu'Epcot ne se démarque pas beaucoup des vieilles recettes utopiques. On avait, il me semble, en son centre une grande place où étaient réunies toutes les fonctions administratives et publiques, hein, dans mon souvenir. Et puis tout autour, les habitations organisées en espèces de ruches, voilà. Et donc, au niveau de la recette, c'est vrai que c'est pas vraiment du renouveau.
Ouais. C'est une ruche où tout le monde n'a pas forcément sa place. Par exemple, si vous êtes chômeur ou si vous êtes retraité, vous n'avez pas votre place dans cette ville-là qu'il a imaginée, Disney.
Alors, dans la ville qu'il a imaginée, de toute façon, tout est beau. Voilà, c'est quand même la définition même d'une utopie. Elle n'est plus utopie à partir du moment où elle existe. Hein.
Le fait est que la planification urbaine devait céder la place à la planification sociale. Sur les 20 000 habitants qui, effectivement, devaient loger dans la ville d'Epcot, tout adulte se devait d'y occuper un emploi. Le film ne dit rien, cela étant, du statut des femmes au foyer. J'aurais peine à croire que Disney envisage que ces dernières, comment dirais-je, se rendent quotidiennement au travail. Au reste, du coup, aucun de ces habitants ne devait de la même façon être propriétaire de son logement. Seuls devaient loger à Epcot des locataires, en ce que le statut juridique très particulier que Disney aura obtenu de la législature de Floride ne concède de droit de vote qu'au seul propriétaire, à savoir la Walt Disney Company.
Alors ça, c'est une chose qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, à l'époque, l'État de Floride va concéder à Disney une charte propre à la ville. Il y a deux questions. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte? Et comment se fait-il qu'on accorde à Disney un tel privilège? Vous organisez l'espace, la vie sociale, comme vous le souhaitez, sur ce territoire-là. Enfin, il y a quand même quelque chose d'incroyable.
Alors, le fameux film Epcot, justement diffusé en 65, n'est pas tout à fait étranger à ce statut. Il s'agit clairement d'un outil de communication destiné à convaincre et la population de Floride et les législateurs de concéder à l'entreprise un statut juridique nouveau, une charte privée qui va conférer à l'entreprise Disney le caractère d'un Vatican à oreilles de Mickey, ainsi que certains le nomment, une ville, comment dirais-je, voire un gouvernement tout à fait autonome, avec des droits quasi régaliens qui lui sont concédés. Par exemple, le droit d'établir son propre plan d'occupation des sols, le droit également d'entretenir ses propres patrouilles de pompiers ou de police, le droit aussi de réguler la vente de boissons alcoolisées, mais peut-être de façon plus significative, le droit même d'ouvrir sa propre centrale nucléaire ou son propre aéroport.
Oui, donc on est en autarcie complète dans ce beau royaume de Disney, Joanne Boitiau.
Oui, et vous disiez justement que finalement, le Magic Kingdom de Floride ne se démarquait pas tant que ça de celui de Californie, mais quand même, dans l'organisation spatiale des deux complexes touristiques, on est aux antipodes.
Qu'est-ce qui change ?
Eh bien, l'ambition de Disney était telle qu'il a acheté des hectares et des hectares dans le comté d'Orange en Floride, donc de manière totalement secrète. La révélation dans les médias avait été phénoménale. Et ce qui change, c'est effectivement la maîtrise totale de l'espace, parce que le parc californien a été très vite saturé. Les hôtels pullulaient autour sans respecter les règles disneyennes d'architecture. Et ce qui change en Floride, c'est justement une maîtrise totale de l'espace à travers notamment cette charte avec l'État de Californie, de Floride.
De Floride. On va s'intéresser dans quelques instants à l'expérience des visiteurs, mais je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu sur la question du paysage. Tout le monde n'est pas allé forcément dans un parc Disney, donc je voudrais qu'on décrive un tout petit peu les choses, et on va décrire ce qu'on trouve dans tous les parcs Disney, Main Street USA, c'est-à-dire cette grande rue principale à laquelle on a accès dès l'entrée du parc. C'est une petite modélisation, c'est une sorte de ville idéale dans une échelle un petit peu réduite, un peu particulière. Vous faites un petit travail de description, Thibaut Clément, et puis aussi d'analyse. Dites-nous, qu'est-ce qu'on y retrouve d'un point de vue architectural, les invariants, les couleurs aussi. Vous faites tout ce travail dans votre ouvrage, expliquez-nous.
Alors, Main Street USA serait inspiré du souvenir que Walt Disney aurait gardé de la ville de Marceline dans le Missouri où il a grandi, une petite ville de campagne dont il aurait gardé un souvenir finalement assez idéalisé. Et donc il s'agit de retranscrire ce souvenir, cette ville embellie en tout cas par le souvenir dans l'espace du parc. Donc Main Street USA figure la rue principale d'une ville de petite importance, en tout cas à Disneyland. Ce sera une ville plus mûre au Magic Kingdom, mais une ville de petite importance à la toute fin du 19e, au tout début du 20e siècle. Il s'agit de donner à voir ce moment charnière dans l'histoire des États-Unis où la voiture hippomobile va céder la place à la voiture automobile, où l'éclairage au gaz va se trouver graduellement remplacé par l'éclairage électrique. Donc de ce point de vue-là, oui, la fonction idéologique, s'il y en a une, en tout cas à Main Street, c'est effectivement de signifier non seulement le cours du temps, mais la marche linéaire et sans heurts du progrès, notamment sous l'effet de la libre concurrence propice ou propre, en tout cas, en tout cas au contexte américain.
Donc c'est intéressant américain, parce qu'en réalité, le progrès a sa place dans un environnement éminemment conservateur. Parce que quand on vous replonge dans un paysage du 19e, du début du 20e siècle, évidemment qu'on vous plonge dans le passé, dans les souvenirs, dans la nostalgie. Et tout cela est éminemment conservateur, Joanne Boitiot.
Alors, si on prend le récit en tant que tel du parc, effectivement, Louis Marin en parle dans un de ses articles qui analyse le plan du parc, hein, finalement. Chacune des contrées dont parlait Thibaut Clément est en quelque sorte une revisite d'une étape de l'histoire du capitalisme. Frontierland est l'âge d'or de la ruée vers l'or, hein, qui était moins doré, comme on le sait, hein, qu'on le croit. Adventureland, c'est le grand temps des colonies. Ensuite, on a Fantasyland, là c'est un peu à part, bien sûr. Et puis Discoveryland, là c'est la colonie du futur, si vous voulez. Voilà. Et puis Main Street, Thibaut Clément l'a très bien décrit, c'est justement ce passage, cet âge d'or du positivisme fin 19e, début 20e, qui a été retranscrite à Paris parce que la Belle Époque était également très bien inscrite dans les esprits. Hein.
Alors, Joanne Boitiot, vous vous êtes intéressée aux visiteurs, à ces visiteurs des parcs à thème, notamment en lisant des observations, des commentaires sur un certain nombre de sites internet, concernant plusieurs sites d'ailleurs, Disneyland Paris, mais aussi le parc Astérix et le Futuroscope. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. Les publics de ces trois parcs que je viens de citer sont très différents.
Alors, en tout cas...
Parce qu'évidemment, il va être question des attentes aussi.
Bien sûr. Alors, les attentes, en tout cas, les attentes sont conscientes et les publics sont généralement très au fait de ce que le parc propose. Moi qui analyse les commentaires sur le site de partage TripAdvisor, et il est vrai qu'en tout cas, les publics sont conscients de ce qu'on va leur proposer et ils sont conscients de ce qu'ils attendent aussi. Voilà, donc une même famille ne réagira pas de la même manière à Disneyland qu'au parc Astérix et qu'au Futuroscope.
Voilà. Et est-ce qu'on peut faire une typologie des visiteurs de Disney?
Alors, on peut.
Alors, faisons-la.
Voilà. Alors, il est vrai que on peut partir du cliché de l'euphorie qu'on a habituellement ou de la passivité du visiteur du parc à thème. Et si effectivement on prend en compte cette euphorie qui existe, hein, dans la perte de repères ou dans l'immersion que j'appellerais coulante, eh bien, se trouvent d'autres formes de public. On a notamment le fan analyste. On a la famille qui cherche à rentabiliser le ticket, qui parfois fait même des ratios entre le temps d'attente, le nombre d'attentes attractions effectuées et qui se prépare un parcours détaillé. Et là, je stéréotype chacune de ces catégories. Hein. Mmh. Et on a ensuite les personnes qui se livrent au sacrilège d'appeler Disneyland un parc d'attractions et non un parc à thème, et qui là sont dans la recherche de sensations.
Mmh. Et alors, il y a une chose qui est étonnante aussi, c'est que assez souvent, on lit dans les commentaires des gens qui sont un peu pas forcément ravis de leur expérience, qui disent même parfois détester Disney, et pourtant non seulement ils y vont, mais ils y retournent.
Oui.
Comment le comprendre ?
Alors, mon hypothèse là-dessus, c'est que le problème de ces parcs à thème-là, c'est que ce sont des lieux qui vendent du rêve, mais qui sont malheureusement vérifiables pour eux. Hein, et donc le hiatus se trouve là. Mmh. Et une expérience n'étant pas mécanique, effectivement, il y a toujours l'espoir que ce soit différent, parce que les visiteurs analysent de manière quand même très détaillée les problèmes qu'ils ont rencontrés lors des visites.
Mmh. Thibaut Clément, sur cette expérience visiteur.
Alors juste pour compléter les propos de Johan, j'aurais tendance à croire qu'il y a une toute petite fraction du public français qui se décrit volontiers comme réfractaire, mais qui éprouve un certain plaisir à visiter le parc pour y faire, la démonstration de son détachement ou de son sens critique. Il m'est souvent arrivé d'entendre, chose tout à fait inconcevable aux États-Unis, généralement des pères de famille, devrais-je dire, qui, lors de la parade, soulignent à leurs épouses ou à leurs enfants que Mickey, en vérité, n'est jamais qu'un RMiste qui déteste son travail, qui prend un malin plaisir, si j'ose dire, à, rompre l'illusion et la magie du lieu. Donc je me demande...
C'est tout à fait français, ça, comme attitude.
Bon, c'est la pratique du spoiler.
Donc pas spécifiquement français. Non, on les retrouve dans les parcs américains.
Oui, aussi, ouais. Thibaut Clément l'a d'ailleurs analysé.
Je vous en prie.
C'est vrai. Cela étant, je crois qu'aux États-Unis, il y a un plaisir de jouer le jeu qui est peut-être plus accusé. Peut-être cela vient-il de ce que les parcs ont maintenant presque 70 ans, à la vérité, qu'ils font partie quelque part de ce patrimoine américain, que plusieurs générations y sont passées et que les codes finalement qui régissent les conduites attendues au sein du parc sont tout à fait intégrés. On remarque chez les publics américains une plus grande adhésion, si j'ose dire, au script attendu, un plus grand plaisir de jouer le rôle. De façon assez manifeste, on voit fréquemment ces familles qui, à peine passé le portail d'entrée, se ruent dans la première boutique pour s'acheter 6 t-shirts identiques et aussi revêtir les fameuses oreilles de Mickey tous ensemble.
Alors, Joanne Boitiot, je vous propose d'écouter justement un visiteur. Alors, je pense que celui-là, on peut le mettre dans la catégorie des fans analystes. Il s'appelle, alors moi je ne le connaissais pas, mais vous le connaissez, c'est Joanne Soupli, c'est un fan invétéré de l'univers Disney. Et là, il fait une fausse vidéo promotionnelle sur Disneyland Paris, dans laquelle il critique justement un peu le manque de magie dans le parc. Écoutez.
Ah, vous connaissez tout ça, la séquence magique du couple parfait qui vient s'amuser à Disneyland. Alors que vous et moi, on sait que c'est pas tout à fait la même chose. On sait que pour faire bon profit, la publicité doit nous montrer la vision la plus magique possible et imaginable qui soit, afin de donner envie au monde entier de partager l'expérience Disneyland Paris. Sauf qu'on est quand même très loin de la réalité.
Bon, ça y est, je peux l'avoir ma surprise maintenant ?
Non, pas encore. Commence un peu.
Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris.
Oh, on est à Disney ?
Bon, je voulais attendre d'être devant le château, mais bon, voilà. Le parking.
Bon, alors évidemment, ça a plus de sens quand on voit l'image, mais vous allez nous aider peut-être à comprendre le message qu'il y a derrière. Au fond, qu'est-ce qui déplaît à ce Joanne Soupli ?
Alors, j'adore cette vidéo parce qu'elle est très complexe et elle montre que Joanne Soupli n'est pas d'un camp ou d'un autre. Ce qu'il montre dans cette vidéo, c'est que effectivement, Disneyland Paris vend du rêve, hein, et que l'essentiel pour passer une bonne journée là-bas, c'est la disposition initiale et l'état d'esprit dans lequel on s'y rend. Voilà, c'est la morale de cette vidéo qui est longue. Et même si au début on a l'impression qu'il va détruire le rêve Disney, en fait la fin est un retournement qui nous révèle que tout est une question de disposition et d'état d'esprit.
Mais est-ce que justement on vend encore du rêve ? Parce qu'il y a une critique qu'on entend beaucoup qui consiste à dire que désormais au fond le développement de ces parcs Disney, il se fait essentiellement autour des succès cinématographiques et que désormais il y a de moins en moins de place pour l'inspiration artistique, pour l'intuition artistique. D'abord, est-ce que c'est vrai? Moi, je suis pas capable de dire si c'est une réalité. Et est-ce que effectivement, désormais, c'est le marketing qui dirige le développement des parcs Disney et c'est plus les créatifs comme c'était peut-être le cas au début?
Alors Thibaut pourra parler des Imagineurs qu'il a étudiés en profondeur.
C'est prévu.
Voilà, moi je parlerai simplement effectivement de ce débat qui existe entre les visiteurs et surtout les fans hein, sur divers forums. C'est l'opposition entre une pratique qui serait de construire une attraction dès qu'un film sort ou de la remasteriser, hein, comme ça a été le cas pour Space Mountain, devenu Hyper Space Mountain, avec la destruction de l'histoire de base de l'attraction, et l'opposition entre ça et puis des attractions originales qui ont fait tout le succès des parcs Disney. Hein. Ben, Thibaut d'ailleurs analyse les trois grandes attractions qui ont été les plus plébiscitées par les spécialistes ou par les fans. Donc ce débat existe en tout cas entre les attractions sous licence qui pullulent et qui gâchent en fait ce récit du parc cohérent et mais qui attire car le parc dit lui-même que c'est ce que demandent les visiteurs. Voilà. Mmh. Donc il y a cette contradiction là. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais
c'est ce que demandent les visiteurs. La majorité.
Alors je dirais que c'est assez partagé. Voilà. Hein, il y a même de tout dans chaque personne. Voilà, c'est vraiment très nuancé.
Thibaut Clément, sur la manière dont se développent aujourd'hui les parcs, sur cette rupture peut-être entre d'un côté effectivement les succès cinématographiques et peut-être de l'autre, disons des univers plus de niche, mais qui aussi avaient leur intérêt. Et puis il va falloir évidemment nous expliquer ce que sont ces fameux Imagineers. Du début.
Alors, en tout cas, juste pour peut-être pour revenir sur les propos de Johan, la stratégie de Disney, de plus en plus, c'est celle de la promotion croisée, si bien que le parc doit faire la publicité des films, de même que les films doivent faire la publicité des parcs. Et donc, on voit quand même les parcs être de plus en plus investis par les méga franchises sur lesquelles table Disney pour ses grands succès. Au point, comment dirais-je, que ce sont désormais des contrées entières qui sont désormais dévolus à certaines franchises. Il y a Cars Land, par exemple, à Disney's California Adventure, à côté de Disneyland. Il va y avoir, tout un land développé autour de la Reine des Neiges. Un land Avatar a aussi ouvert à Animal Kingdom. Le fait est que cet univers est de plus en plus investi, en tout cas par les méga franchises. Et du coup, j'aurais tendance à croire, s'appauvrit, tout de même créativement parlant.
Et les Imagineers? Alors, les Imagineers. Début de l'aventure.
Les Imagineers, donc les Imagineurs, comme le veut la terminologie officielle, ou Imagineurs, comme je préfère les appeler, ce sont ces designers responsables de la conception générale du parc. Ils regroupent des corps de métiers variés aujourd'hui, hein, aussi bien des scénaristes que des ingénieurs. Mais il faut savoir qu'au départ, ces Imagineurs, ils proviennent en très grande majorité des studios Disney. Ce sont des animateurs qui, dès lors, vont s'ingénier à transposer dans l'espace toutes les techniques de mise en scène originellement associées au studio d'animation. Mmh. Et il en résulte, du coup, ce qui fait probablement l'une des plus grandes originalités du parc, à savoir que le paysage, l'environnement matériel et physique de ce dernier est en vérité un médium. Il est le véhicule de récits. Et ces récits travaillent à faire du visiteur le héros de sa propre aventure, le protagoniste d'un récit à la première personne, qui suit généralement une trame canonique. C'est le protagoniste d'un récit d'aventure, un récit d'un voyage en pays inconnu, selon les mêmes séquences ternaires, départ, traversée et retour.
On est avec vous, Thibaut Clément, et vous, Johan Boitiot, dans cette série consacrée au tourisme de la démesure. On parle aujourd'hui des parcs à thème de Disneyland en particulier, mais on va s'intéresser à un autre parc à thème. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h presque 39 minutes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler désormais du Puy du Fou, un parc à thématique historique créé il y a 30 ans maintenant par Philippe de Villiers. Aujourd'hui, c'est le deuxième parc à thème de France par sa fréquentation, justement derrière Disneyland Paris. Les visiteurs peuvent y voir un spectacle présentant une vision assez mythifiée de l'histoire, notamment concernant la guerre de Vendée, dont certains historiens considèrent qu'elle est dépeinte avec une petite touche de révisionnisme. On peut penser à Michel Vauvel, par exemple, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, qui a parlé d'une spectaculaire révision de la Révolution française, ou encore Jean-Clément Martin, historien de la Révolution française, qui parle d'un spectacle exaltant, je cite, le mythe d'un âge d'or durant lequel nobles et gens du peuple étaient soudés par un même idéal communautaire. Mais quoi qu'il en soit, cette vision mythifiée, un peu nationaliste de l'histoire, fait des émules à tel point que le concept s'exporte. Alors il s'est exporté du côté de l'Angleterre et puis plus récemment du côté de l'Espagne.
Ici c'est un joyau, c'est un résumé des trois cultures qui façonnent l'histoire d'Espagne et dans une zone de population très importante.
Là on va recréer un marché dans une ville médiévale. Donc on va vieillir du bois pour la structure et récupérer des vieilles tuiles pour la toiture, comme vous le voyez sur l'écran.
Donc là on se trouve dans la zone de l'Arrabal, un marché médiéval, un faubourg qu'on va créer. Difficile de se l'imaginer, mais dans 6 mois ce sera prêt.
Voilà, c'était Erwan de la Villéon qu'on entendait à l'instant, le directeur du développement du Puy du Fou. On est là donc à Tolède, en Castille, dans le centre du pays. Et d'ici quelques mois, eh bien, des spectateurs pourront y voir un grand spectacle allant des rois visigoths du 5e siècle jusqu'à l'époque contemporaine, à l'Andalus, la Reconquista. Tous les moments de la péninsule seront là, dans leur version la plus mythifiée là aussi. Bonjour Martial Poisson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien et économiste de la culture. Vous êtes professeur à l'université Paris 8. Est-ce que vous êtes étonné par ce processus d'exportation du concept du Puy du Fou, ou finalement ça n'a rien de très étonnant? C'est simplement, disons, une version moderne d'une démarche qui consiste à mettre en spectacle, à mettre en récit l'histoire pour la mettre au service d'une idéologie, d'un combat politique.
Alors ce qui est intéressant à mon avis dans le cadre du Puy du Fou, c'est qu'on commence historiquement par la cinécénie en 1977, qui est quelque chose de très local, un son et lumière associé vraiment au combat d'une région pour la révision de son histoire, et la reconnaissance notamment de ce qu'ils appelaient, contre une grande partie de la communauté des historiens, le génocide chouan en fait, commis par les armées de la Révolution. Donc on commence par une structure associative, une forte implication de bénévoles, la constitution de toute une communauté rurale, très très ancrée dans un territoire qui est un territoire en crise, qui est un territoire mal aimé par l'histoire, la glorieuse histoire républicaine. En 1989, on a un premier tournant qui est la constitution du Grand Parc par Philippe de Villiers, avec un projet politique très clair qui dépasse l'histoire locale et qui prend une ampleur plus nationale. On est vraiment dans la grande constitution du récit catho-tradit, comme on disait à l'époque, en tout cas une vision très réactionnaire de l'histoire, promouvant donc le bon peuple catholique et royaliste qui aurait été sacrifié par l'histoire. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est cette nouvelle extrapolation et donc ce passage d'un ancrage très territorial, puis d'une ambition politique nationale avortée, à une sorte de histoire de la guerre de Vendée comme produit d'exportation. Et c'est très intéressant de voir la cartographie, en fait. Donc là vous citiez l'Espagne, il y a aussi l'Angleterre avec le projet donc autour de Auckland. Il y a également des projets du côté de la Hongrie, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Crimée, de la Russie et jusqu'en Chine. Donc on voit une sorte de propagation, mais qui n'est pas neutre, puisqu'elle correspond de façon assez étroite avec le grand mouvement des révolutions conservatrices et populistes en Europe.
Mais Martial Poisson, les mythes révolutionnaires et les mythes contre-révolutionnaires, c'est des choses évidemment qui sont très anciennes, qui remontent finalement aux révolutions elles-mêmes à chaque fois. Mais depuis quand est-ce qu'ils sont repris à des fins économiques? Depuis quand est-ce qu'on commercialise ces récits historiques? Est-ce que c'est récent ou est-ce que là encore c'est relativement ancien?
À mon avis, la Révolution française en particulier a produit sa propre légende presque en temps réel, puisque très rapidement après la prise de la Bastille...
Mais en la commercialisant?
Ah, tout à fait, oui, il y avait une commercialisation de pierres, vraies ou fausses, de l'île de Bastille, qui s'est opérée un peu sur le même modèle qu'ensuite le mur de Berlin en 1989. Donc on a une sorte de constitution de reliques révolutionnaires qui font l'objet d'un marché, On a un processus également de sanctification, la constitution d'un grand discours, de part et d'autre d'ailleurs, du côté de ceux qui se considèrent comme les victimes, comme du côté de ceux qui se considèrent comme les héros. Donc cette mythologie, elle est constitutive du principe même de la Révolution française. Elle est ensuite reprise par les révolutions ultérieures, en particulier la Révolution d'octobre 17, hein, qui ne cesse de glorifier les héros de la Révolution française et de se présenter comme une continuation de la Révolution française, dont ils considèrent qu'elle s'est un peu fourvoyée à un moment donné. Donc cette logique de reprise, on pourrait appeler ça aussi de captation d'héritage, elle traverse finalement les siècles. Ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est qu'elle s'inscrit dans ce que vous évoquiez d'ailleurs précédemment dans l'émission, c'est-à-dire dans une sorte d'industrie culturelle à grande échelle, avec des enjeux économiques majeurs, à la fois pour les régions, en termes d'employabilité, en termes de retombées économiques, et puis même pour le pays en lui-même.
Mais alors, justement, si on prend le cas du Puy du Fou, est-ce que pour vous, c'est d'abord un projet commercial, ou c'est d'abord un projet politique, idéologique ? Évidemment que c'est les deux, mais d'abord quoi ?
À mon avis, le Puy du Fou, il s'inscrit dans la droite ligne de la tradition des foires, qui était finalement antérieure à la constitution des parcs, et qui avait une logique politico-commerciale tellement intriquée qu'elle en devenait indissociable. Faut pas oublier que les entrepreneurs forains sont nés sur les grands marchés dès le Moyen Âge. La foire du trône apparaît dès le Xe siècle. Et on a déjà ce mélange entre des bonimenteurs, des montreurs de curiosités, des entrepreneurs de spectacles, des marchands au sens classique du terme. Donc je dirais que c'est une réalité qui traverse véritablement l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du Puy du Fou, le projet politique et idéologique de révision de l'histoire est sans doute premier. Il est porté par un élu de région, qui ensuite a des ambitions nationales, d'ailleurs, puisqu'il se présente en 95, Philippe de Villiers, à la présidence de la République, le grand maître d'œuvre du parc. Donc il y a un enjeu directement militant dans cette utilisation des loisirs récréatifs. Mais paradoxalement, et là peut-être que je pense qu'il y aurait lieu d'en débattre entre historiens, ce potentiel idéologique, il est partiellement désactivé par la dimension grand spectacle qu'a prise le Puy du Fou aujourd'hui.
Pardon de vous couper, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'effet que ça a ou pas. Si on regarde par exemple le projet espagnol, il est aussi évidemment clairement question d'exalter le roman national. D'abord, sur le choix de la ville même, hein, Tolède, c'est le symbole de l'entente des trois cultures chrétiennes, juives, musulmanes, c'est l'ancienne capitale du royaume d'Espagne, c'est aussi une région, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, où la mémoire du franquisme est encore assez vive. On sait que l'Espagne aujourd'hui traverse un moment de désunion assez fort, une crise identitaire avec un séparatisme catalan qui est exacerbé. Alors, l'effet justement de ce type de spectacle sur le sentiment nationaliste, est-ce que vous pensez que c'est de nature à le renforcer ?
Oui, tout à fait. Là, on voit très clairement qu'il y a dans les différents pays d'Europe où s'implante le modèle Puy du Fou, un projet typiquement de glorification des peuples chrétiens de race blanche, comme on dit dans certains partis politiques extrémistes. Donc on est vraiment dans cette vision extrêmement populiste. Et en même temps, les nécessités économiques font que il faut produire du consensus et que donc aborder cette histoire qui est clivante, peut-être plus que jamais dans cette période post-coloniale ou décoloniale, nécessite des ajustements, des raccourcis, des télescopages temporels qui font que finalement le référent historique tente à se diluer. Le Puy du Fou, aujourd'hui, c'est une trentaine de spectacles où on voit aussi bien des croisés que des grands explorateurs, que les grands conflits mondiaux, et tout ça d'ailleurs à travers un format qui reprend les recettes à succès du cinéma, de l'heroic fantasy, etc. Donc on voit bien que la nécessité de faire du chiffre, en quelque sorte, et de rentabiliser le modèle économique entre partiellement en porte-à-faux, sinon en contradiction avec le projet idéologique. Projet idéologique qui reste malgré tout extrêmement fort et de plus en plus désinhibé d'ailleurs de la part des artisans de ce type de parc. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est l'évolution vers un projet qui est de plus en plus avoué comme une volonté de révision de l'histoire telle qu'elle est enseignée dans les classes. Le Puy du Fou aujourd'hui c'est une académie, il y a aussi une académie, une école en parallèle où on n'applique pas tout à fait les programmes de l'éducation nationale en particulier.
Thibaut Clément, Johan Boitiot, que vous inspire cet exemple du Puy du Fou? Puis peut-être qu'on peut jouer le parallèle avec les parcs Disney. Je ne sais pas s'il y a, je ne suis pas un grand spécialiste des parcs Disney, vous me pardonnerez, mais je ne sais pas s'il y a des attractions qu'on pourrait qualifier de patriotiques dans les parcs Disney. Oh, vous me faites oui de la tête, Thibaut Clément. C'est un oui très clair. Alors allez-y.
Oui, en particulier aux États-Unis, ça va sans dire. Il y en a au moins deux que l'on peut mentionner rapidement. Au Magic Kingdom, donc dans la version de 71 du Disneyland de Californie, édifié à Orlando en Floride, se trouve The Hall of Presidents, qui figure la totalité des présidents sous la forme des robots audio-animatroniques que Disney a développés au cours des années 60, et au cours desquels quelques-uns sont invités à prendre la parole avec, comment dirais-je, un discours qui vient clore l'attraction, qui est toujours le discours du président en exercice. Ça veut dire que quand je me suis rendu dans les parcs sous l'ère Obama, il n'était pas rare d'entendre, comment dirais-je, un certain nombre de cris enthousiastes saluant l'intervention du président robotique. Aujourd'hui, ça signifie que c'est Donald Trump qui s'est livré à l'exercice, qui a enregistré donc pour le compte de cette attraction une espèce de best-of de ses discours, lesquels sont généralement d'ailleurs tous plus ou moins identiques, très consensuels sur le caractère exceptionnel de la nation américaine. Le fait est que...
Il ne tweete pas.
Non. À ma connaissance, il ne tweete pas.
Non mais je dis ça, c'est à peine une blague parce que du coup je l'ai regardé effectivement ce mur des présidents et dans les commentaires il y en avait un qui était très drôle qui disait je n'ai jamais vu Donald Trump aussi présidentiel, aussi présidentiable. Johan Boitiot.
Alors, mais il est vrai que parfois la fiction est meilleure que la réalité. Hein, bon, voilà. Alors moi, je voudrais revenir. Effectivement, bah, c'est bien que les historiens se posent la question parce que là, monsieur a établi une bonne distinction entre ce qui est une lecture de l'histoire et une révision de l'histoire. Et pour revenir sur les attractions patriotiques, dans la version parisienne de Disneyland, on a des choses, mais assez différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Hall of Presidents, mais nous avons une place haussmannienne reconstituée à la sauce du dessin animé Ratatouille. Et les boutiques sont remplies de produits mettant en scène Minnie et Mickey face à la Tour Eiffel. Et la région Île-de-France et Disneyland Paris s'étaient associés dans une campagne publicitaire où nous pouvions voir la Belle et la Bête danser, il me semble, à Fontainebleau. Mickey et Minnie faire leurs emplettes aux Galeries Lafayette. Donc on est dans un patriotisme, je dirais, différent.
On a même un spectacle autour de Buffalo Bill.
Tout à fait.
Absolument.
Là, on est sur le nationalisme états-unien, mais tout de même, qui d'ailleurs n'a absolument rien à voir avec l'univers Disney.
Il a à voir avec l'univers Disney en ce que...
Buffalo Bill existait quand même bien avant Walt Disney.
Oui, il existait bien avant, mais Disney a dû
s'essayer. Et sa légende aussi.
Mais le fait est que Disney s'est essayé au western en produisant, pour l'émission Disneyland qui précédait l'ouverture du parc, en produisant une série Davy Crockett.
Subway right down to King's Highway. Gone out and have a good time.
Merci à nos invités. D'abord, Martial Poirson qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes historien, économiste de la culture et professeur à l'Université Paris 8. Vous avez notamment dirigé l'édition de La Révolution française et le monde d'aujourd'hui, mythologie contemporaine. Un grand merci à nos deux invités ici en plateau. Thibaut Clément, je rappelle que vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à Paris-Sorbonne et que vous avez publié, c'était en 2017, Les plus vrais que nature, les parcs Disney ou l'usage de la fiction dans l'espace et le paysage, qui est en fait le résultat de votre thèse. Vous, Johan Boitiot, votre thèse, vous êtes en train de la faire, donc il faudra attendre encore un tout petit peu pour avoir un livre.
J'espère, oui.
on espère aussi, on vous invitera. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Close cette série consacrée au tourisme de la démesure que vous pouvez évidemment retrouver sur le site de France Culture. Demain, on aura notre dernière émission de la saison avant de se retrouver l'année prochaine. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Brice, que nous retrouverons aussi l'année prochaine. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et nous n'allons pas tarder justement à nous quitter pour l'été. Quel livre conseillez-vous aux auditeurs qui préparent leur valise?
Eh bien, en particulier Le Paradis perdu de Benjamin Haddad. C'est un Français de 33 ans qui a été nommé directeur pour l'Europe de l'un des principaux think tanks américains, l'Atlantic Council. Et à mes yeux, c'est le meilleur livre sur le tournant décisif qu'incarne Donald Trump. Et sa thèse, il la résume en une phrase. Non, Donald Trump n'est pas un accident de l'histoire, mais c'est le marqueur d'un changement d'époque. Parce que le vrai tournant, il avait déjà été pris. Dès Barack Obama. C'est lors de cette présidence que s'est refermée l'étrange parenthèse ouverte par l'implosion du bloc soviétique en 1989-91. On avait vu alors d'anciens trotskistes reconvertis en néo-conservateurs inspirer la politique étrangère des présidents, tant démocrates comme Bill Clinton que républicains comme George W. Bush. Cette politique, qu'on a appelé le wilsonisme botté, était fondé sur le mythe de l'exceptionnalisme américain, sur le sentiment d'avoir une mission à remplir en faveur de la liberté et de la démocratie, y compris par des moyens militaires. Les Européens auraient dû comprendre qu'on avait changé d'époque dès septembre 2013, parce que c'est alors qu'Obama a renoncé à punir le régime de Bachar al-Assad, qui avait utilisé, comme on se souvient, des armes chimiques contre sa propre population. Alors même que, comme le répétaient les alliés français à l'époque, une ligne rouge fixée par Washington lui-même avait été franchie. Trump, lui, a laissé les Russes rétablir en ses palais le dictateur syrien, leur allié. Les États-Unis sont devenus les premiers producteurs de pétrole du monde. Le Moyen-Orient les intéresse médiocrement. Avant Trump, Obama avait traité les alliés européens déjà de passagers clandestins de l'OTAN, incapables de contribuer à la hauteur de leurs moyens à leur propre sécurité. Mais comme l'écrit Benjamin Haddad, Obama préférait l'emploi de moyens discrets, furtifs, en particulier l'usage massif de drones armés pour des liquidations ciblées, l'emploi des forces spéciales comme pour l'élimination d'Oussama Ben Laden ou le recours à la cyberguerre afin de retarder le programme nucléaire de l'Iran. Mais l'Amérique montrait déjà qu'elle était fatiguée du monde. À l'époque, Robert Kagan avait prévenu « Vous n'aimez plus le shérif américain, eh bien alors préparez-vous à vivre dans un monde qui va ressembler vraiment au Far West ». Donald Trump, lui, est un Jacksonien. Chantre du peuple contre les élites, Andrew Jackson a été le premier président populiste des États-Unis, les Jacksoniens, ses héritiers. Ne croit pas aux croisades morales, ils défendent les frontières, ils n'aiment pas entamer des guerres, mais, prévient Haddad, ils ont la réputation de ne pas s'arrêter avant de les avoir gagnées.
Et alors Brice, quelles conséquences pour les alliés des États-Unis? Est-ce qu'ils restent crédibles?
Les Américains ne veulent plus payer, on l'a compris, pour assurer la sécurité de leurs alliés. Mais ils ne veulent plus non plus servir de garant en dernier cours de l'ordre international à travers des institutions qu'ils ont pourtant créées, telles que l'OMC. En gros, ils ne veulent plus de la mondialisation. Ils ont pris acte du passage d'un système multipolaire à un ordre bipolaire. Ce que Mark Leonard, le directeur du European Council on Foreign Relations, a récemment décrit comme la fin de la Chine-America. À savoir le passage d'un jeu supposé gagnant-gagnant entre les deux puissances à une compétition ouverte où ce qui peut être gagné par l'un est perdu par l'autre. Et Leonard est sur la même ligne là que Benjamin Haddad. Il écrit, je le cite, « Mais si Trump et Xi Jinping ont perturbé le statu quo dans leurs pays respectifs, leurs programmes géostratégiques ont simplement accéléré des développements qui étaient déjà en cours. » Et c'est pourquoi notre Union européenne connaît un tel désarroi. Parce que notre système a été bâti à la fois sur l'assurance de sécurité américaine via l'OTAN et sur l'ordre international libéral, car nous sommes d'abord et surtout une puissance commerciale. L'Europe est vue au mieux comme un acteur secondaire, théâtre des rivalités de ces grandes puissances, voire comme une nuisance et un concurrent économique par Trump, pour citer à nouveau Hubert Haddad. Une expression revient sous la plume de nombreux commentateurs. L'Europe risque fort de servir de variable d'ajustement dans le conflit central qui opposera et qui oppose déjà les États-Unis à la Chine. Comme l'a dit un très influent universitaire chinois à Mark Leonard, « Quand nous entrerons en guerre avec les États-Unis, nous espérons que l'Europe restera au moins neutre ». Paradoxalement, relève Benjamin Haddad, la diplomatie, j'ai dit Hubert tout à l'heure.
Oui, j'ai pas, oui, vous avez dit Hubert.
Parce que c'est Hubert Védrine qui a préfacé le bouquin et du coup j'ai mélangé les deux. Excusez-moi, donc c'est Benjamin Haddad. Paradoxalement, relève Benjamin Haddad, la diplomatie européenne qui se révèle la moins prise au dépourvu parce que qu'incarne Trump, eh bien, c'est la nôtre. La politique étrangère française depuis un demi-siècle est bâtie sur une hypothèse Trump. D'où l'impression donnée par le président américain qu'Emmanuel Macron est bien le seul dirigeant européen avec lequel il entend discuter. Mais sans jamais rien lui céder, ni sur l'accord de Paris sur le climat, ni sur l'accord de Vienne avec l'Iran. Alors le paradis perdu de Benjamin Haddad est paru aux éditions Grasset. Il est préfacé par Hubert Védrine.
Merci beaucoup Brice Couturier. On peut retrouver évidemment cette chronique sur le site de France Culture. C'est bientôt fini, on va pouvoir faire une petite pause estivale.
Il est temps je crois.
Un grand merci Brice, on se retrouve demain. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.